Au cours des deux dernières semaines, la température a été plutôt clémente et les sports d'été ont pris la vedette. Kim Eng a été nommée directrice générale des Marlins de Miami au baseball, la première femme à obtenir un tel poste dans le baseball majeur. Vous voulez suivre un nouveau sport, la Vendée des Globes, ça vous intéresse? Les joueurs du Masters ont de la difficulté à retrouver leurs balles dans l'herbe sans les spectateurs. Et pendant que les Raptors de Toronto se cherchent un nouveau domicile temporaire pour 2021, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Et nos invités aujourd'hui seront Kevin Breton, Yvan Deslauriers, James Lapierre, Charles-André Marchand, Jean-François Martin et Mathieu Paiement. On retrouve Mathieu Tessier et Jean-Sébastien Laliberté à la technique et Louis Garon à la coordination. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 17 novembre, nous parlerons de la NFL et du Thanksgiving américain, de golf, de code d'écoute des événements sportifs, des Olympiques spéciaux, de Chris Nikic et de Joey Moss. Je vous souhaite une bonne émission et on enchaîne sans attendre avec notre premier sujet. Alors, le jeudi 26 janvier prochain, ce sera le Thanksgiving américain. Et comme à chaque année, il s'agit d'une grande tradition de football avec trois parties de la NFL. J'en parle avec Charles-André Marchand, qui est animateur de l'émission de radio Le Tailgate à la radio de Sport 91.9. Bonjour, M. Marchand, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, mais Thanksgiving, je te corrige tout de suite. C'est le 26 novembre.
Oui, pardon, c'est ma feuille était... On est au mois de novembre 2020, c'est tout mélangé. Ben on voilà, est bien au mois de novembre.
L'année a été mélangée.
C'est ça. Donc, vous avez de la famille aux États-Unis.
Oui.
Le Thanksgiving, pour les Américains, c'est une grosse fête.
C'est plus gros que Noël, c'est plus gros que le jour de l'an. Le Thanksgiving américain, c'est la fête familiale par excellence. Normalement, à ce temps-ci de l'année, moi-même, je serai à Cincinnati avec ma fille, mon gendre et ma petite-fille à préparer la grande célébration du Thanksgiving. Et ça, ça inclut normalement aussi un petit pèlerinage au stade des Bengals. Et parfois même, on va faire un tour du côté d'Indianapolis pour aller voir un match des Colts parce que c'est pas tellement loin, c'est à 2 heures de route. Alors oui, c'est une grande tradition. Et puis, le plus drôle, c'est que la tradition de football, le jour du Thanksgiving, ça remonte quasiment aussi loin à la création de ce sport qui est devenu le football américain.
C'est comme les deux doigts de la main.
Rugby. Pardon?
C'est comme les deux doigts de la main, en fait. Un va pas sans l'autre.
Ben, écoute, le premier match de football documenté de Thanksgiving a eu lieu à Philadelphie pour l'Action de grâce de 1869.
Est-ce que la première dinde se sont côtoyées, d'après vous?
C'était la première fois où, effectivement, on a présenté du football le jour de la Thanksgiving américaine, qui est le dernier jeudi de novembre. On a eu par la suite des matchs de 1876 à 1881, et je dirais que c'est devenu vraiment une institution à partir de 1882, alors qu'on avait décidé d'avoir un match de championnat à New York le jour de l'Action de grâce. Alors, c'est bien avant l'arrivée de la NFL. Écoute, le premier match comme tel de football le jour de la Thanksgiving est survenu 6 ans après qu'Abraham Lincoln ait déclaré que le Thanksgiving était une fête nationale en 1863.
Donc, c'est ça. On remonte à loin. Là. Même les règlements devaient être différents beaucoup à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Et puis à ce moment-là, le football, n'oublions pas, là, c'était encore un dérivé du rugby. On jouait à 22 joueurs de chaque côté. On était vraiment dans les premiers balbutiements de ce sport qui allait devenir le football. Et aujourd'hui encore, pendant le week-end du Thanksgiving, le jeudi, oui, il y a les 3 matchs de la NFL, mais il y a plein de matchs universitaires et de high school le vendredi, le samedi. En fait, c'est une abondance, une surabondance de football pendant 4 jours, littéralement.
La NFL a beaucoup de... C'est important, le Thanksgiving, pour la NFL, quand même.
Ben, c'est une question de visibilité parce que c'est une journée de congé qui arrive le jeudi. Et puis, bon, la plupart des Américains ont aussi congé le vendredi. Alors, puis, tout le monde est en famille. N'oublions pas, là, ça, c'est quasiment la fête de famille que tu n'as pas le droit de rater. La fête de Noël, elle est plus à connotation religieuse aux États-Unis. Le jour de l'an, c'est plus l'occasion de faire la fête avec tes chums, avec tes amis, d'aller célébrer dans les boîtes de nuit. Mais pour ce qui est de Thanksgiving, faut que tu sois là avec maman, grand-maman, grand-papa, les enfants, les petits-enfants, c'est quasiment une hérésie que de ne pas y être. Alors, ça fait des rassemblements familiaux. Les gens arrivent souvent le mercredi soir et vont s'installer souvent chez le patriarche ou la matriarche. Et on va festoyer, et puis dans l'après-midi, ben, pendant qu'on prépare le repas de dinde, on a des matchs de football, les hommes sont dans le salon, et les femmes sont dans la grande cuisine, excusez les stéréotypes, mais c'est ça les États-Unis dans bien des cas.
Oui.
Et puis la première fois que la NFL s'est intéressée à ça, écoutez, c'était les Lions de Détroit. Pourquoi les Lions de Détroit sont toujours au Thanksgiving? C'était une des premières équipes à se dire leur cote d'écoute n'était pas très bonne. C'était pas une équipe qui avait beaucoup de popularité. Ils ont dit, on va jouer, nous, le jeudi du Thanksgiving. Et puis, ben, les cotes d'écoute ont été telles que là, tout le monde voulait jouer le jeudi du Thanksgiving.
Donc, Détroit est toujours là ou à peu près dans l'histoire. Il y a d'autres équipes qui sont tout le temps là aussi. Là. C'est toujours à peu près les mêmes équipes qui jouent cette journée-là.
Ben, c'est-à-dire que les Lions de Détroit et les Cowboys de Dallas, ça c'est assuré, ils sont là à tous les Thanksgiving. Cette année, on aura aussi les Steelers qui vont affronter les Ravens. Alors, mais généralement, vous pouvez compter sur la présence des Lions et des Cowboys le jour de l'Action de grâce américaine.
Il y a de ces jeudis-là, donc depuis à peu près 60 ans, la NFL là, qui existe peut-être 50 ans, y a-t-il des anecdotes intéressantes qui se sont passées cette journée-là que vous pouvez me raconter?
Ben, écoute, des anecdotes, souvent le match comme tel, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs matchs, ce ne sont pas nécessairement des matchs mémorables, mais ça fait partie de la fête. Un peu comme les matchs, je dirais, de football universitaire le jour de l'an.
Okay.
Ce ne sont pas les matchs qui vont décider du champion de l'année, ce ne seront pas mais ce sont des matchs festifs. Ce sont des matchs, moi j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'assister à un match entre les Steelers et les Colts à Indianapolis, le jeudi soir de l'Action de grâce. Et je peux vous dire que c'était la fête à Indianapolis. C'était l'ambiance, on a honoré Tony Dungy, on avait des activités à côté. C'était très festif. J'avais l'impression de revivre une veille du jour de l'an ou une veille de Noël, mais de façon sportive. Et des comparaisons, évidemment, sont boiteuses. Je me souviens d'avoir vécu le 31 décembre 1975 quand le Canadien de Montréal avait affronté l'équipe de l'URSS avec Vladislav Tretiak et compagnie.
Oui.
Et au-delà du match de hockey, qui nécessairement était un match exhibition, mais c'était le côté festif. C'était le party dans le forum. Et ça avait fini 3-3, puis les gens avaient donné une ovation à Vladislav Tretiak à n'en plus finir, tellement que le gardien russe pleurait sur la patinoire parce qu'il ne s'attendait pas à un accueil comme ça. Alors, c'est une ambiance qui est différente d'un match ordinaire, d'un match du dimanche ou du lundi soir. Les matchs le jour de Thanksgiving, puis même dans la Ligue canadienne de football, j'en ai vécu plusieurs, le lundi de l'Action de grâce. Écoutez, même dans la salle de presse, dans la Ligue canadienne de football, chez les Alouettes de Montréal, chez les Argos de Toronto, il y a une dinde gigantesque. Les journalistes, on mange la dinde le jour de l'Action de grâce. Puis c'est des matchs de rivalité, puis c'est des matchs d'équipes de même division. Alors, c'est quelque chose de différent. C'est comme une autre... Comme s'il y avait une pause quelque part dans la saison pour s'offrir ce match de l'Action de grâce.
Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la NFL, ils peuvent écouter votre émission la fin de semaine au 91.9. De quoi vous allez parler la semaine prochaine, en fin de semaine?
À tous les dimanches dans le tailgate, on s'assure de parler un peu de football canadien, même si la saison est sur pause. On a des joueurs des Alouettes, on a des intervenants de la Ligue canadienne, et surtout que cette semaine, on parle de l'action de cette semaine de la Coupe Grey virtuelle. Mais on a aussi des collaborateurs réguliers. David Gilbert, qui est notre spécialiste de college football, qui nous décortique les gros matchs dans la NCAA. Martin Saint-Jean, qui nous parle des matchs à venir dans la Ligue nationale de football. Parce qu'évidemment, le dimanche, on est là de 11h à midi. Et à partir de 13h, eh ben, ça commence dans la Ligue nationale de football pour une douzaine de matchs qui vont se terminer le lundi soir. Et j'ai aussi mon ami Bruno Monpetit, qui est un maniaque de statistiques et qui nous décortique. À chaque semaine, il se lance un défi, il me lance trois chiffres.
Oui.
Et ces trois chiffres-là, il va m'expliquer ce qu'ils signifient. Et c'est fort intéressant, on appelle ça « Au-delà des statistiques ». Et bien sûr, c'est un tailgate. Alors, les gens peuvent appeler et participer. Les partisans de toutes les équipes sont bienvenus, même ceux des Cowboys de Dallas. Vous savez, je suis un vieux partisan oui. des Steelers, mais même ceux des Cowboys de Dallas, on leur cède la parole, on les laisse s'exprimer. Alors, c'est une belle occasion de réunir les amateurs de football de tout le Québec et de pouvoir parler en français de ce qui se passe dans la planète football.
Monsieur Lapierre, en terminant, il reste à peu près 30 secondes.
Oui.
Vous êtes un auteur de livres. Vos livres sont disponibles... prochainement chez Vues et Voix?
Ben, c'est-à-dire que, oui, on a chez Vues et Voix notre version de Pègre Québec 1 que j'ai narré moi-même. Et ensuite, sa version écrite, il y a bien sûr Pègre Québec 1, Pègre Québec 2 qui viennent de sortir. Et j'ai aussi commis quelques romans, dont Les funérailles des dieux. Alors, et la biographie de Bertrand Godin, qui est un vieux, vieil ami à moi. Alors, ce sont tous des livres qui sont disponibles dans les bonnes librairies et dans plusieurs Costco également. Alors, si ça vous tente, allez découvrir ça.
Je vous remercie, Monsieur Marchand. Ça a été très intéressant. Je vous souhaite un bon dimanche de football et un bon Thanksgiving américain avec votre famille en utilisant Zoom. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Passez une bonne semaine.
Alors, je suis en compagnie de mon chroniqueur Kevin Breton. Bonjour Kevin, ça va bien?
Salut Dominique, oui. Je pensais que tu allais dire chroniqueur préféré.
Ben oui, mais on m'a dit que c'était ta dernière chronique pour un bout, fait que ça peut pas être nécessairement préféré si tu me fais ça.
C'est pour ça que tu as massacré mon prénom, donc.
Ah, Kevin. C'est ça, je me sens fargé, c'était tout à fait mal voulu. Dans l'introduction musicale qu'on vient d'entendre, c'était Mario Golf. T'es un grand amateur de jeux vidéo. Mais des recherches de cette semaine t'ont permis d'apprendre qu'il y a peut-être un aspect du golf qui pourrait s'appliquer à toi. Mais avant tout, peux-tu me donner un petit peu de contexte par rapport au golf?
Ben oui, ben en fait, je voulais vous parler de golf et de handicap dans tous les sens du terme. Donc à la fois handicap pour parler d'une déficience physique, mais aussi handicap, c'est-à-dire le score moyen que l'on retrouve sur un parcours de golf. Il faut dire que ce sport-là a bénéficié d'une super grande popularité cet été pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire s'il y a un sport qui se pratique bien en solitaire, en respectant les distanciations physiques, c'est bien ce sport-là. Même si aussi il y a une valeur très sociale à ça, là, on peut jouer professionnellement au golf ou on peut y trouver seulement une valeur de sociabilité. Et donc, le golf était donc parfait cet été sur le parcours, sur les terrains de golf. Et il a joué donc d'une grande popularité, si bien que c'est un loisir qui s'est démocratisé, mais il est quand même surtout populaire auprès d'une frange, d'une portion de la population, même qu'on l'a longtemps associé uniquement aux hommes blancs. Là, sur le niveau professionnel, il y a quand même différents circuits qui ont fait des efforts pour le rendre accessible, apporter par exemple des personnes racisées issues de communautés diverses et aux personnes qui n'ont pas nécessairement non plus un portefeuille garni pour s'acheter le dernier Callaway Fairway 8, parce que souvent, ça coûte cher jouer au golf. Et il ne faut pas oublier les golfeurs handicapés qu'on
peut rejoindre. C'est ça, oui, Kevin.
Rejoindre.
Tu peux me donner un petit peu plus de détails?
Sur les golfeurs handicapés.
Oui.
Ben oui, ben, ça ne devrait pas être une surprise si on veut comprendre que les circuits de golf tentent de rejoindre les athlètes avec un handicap, parce que souvent, les personnes qui sont les plus amateurs de golf sont souvent les personnes âgées. Donc, il y a des accommodements qui vont naturellement se produire. On peut penser aux cartes de golf pour permettre aux joueurs à mobilité réduite de jouer plus longtemps. D'ailleurs, John Daly s'est battu jusqu'en cours pour obtenir le droit d'utiliser une voiturette sur les verres de la PGA quand ses vieilles hanches ne lui permettaient plus de se rendre d'un point A au point B. Et il y a même aussi au tournoi des au Canada des tournois qui ont été mis en place pour rendre le sport plus populaire auprès des golfeurs, notamment auprès des golfeurs avec un handicap visuel. C'est tout naturel, ça va de pair avec le vieillissement de la population. Des golfeurs veulent pouvoir continuer à pratiquer leur sport, même une fois qu'ils ont perdu certaines capacités, que ce soit physiques ou visuelles, etc., etc.
Et que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, on veut favoriser la pratique du sport.
Ben oui, absolument, parce que tout le monde le dit, là, les médecins, les organismes communautaires, on a à peu près tous le même discours. Pratiquer un sport, ça a plein de bienfaits, oui, sur la santé physique, mais aussi sur la santé morale. Puis le golf, c'est parfait pour se bâtir un cercle social, pour briser l'isolement. Puis c'est un sport qui est relativement accessible. Une de ses vertus, c'est justement l'aspect de la socialisation. Et là, il y a un article du Ottawa Sun qui démontre comment cette socialisation-là peut avoir une grande portée. Et même il y a un pouvoir, en quelque part, thérapeutique auprès des joueurs avec un handicap. Donc, l'article en question, dont je pourrais vous envoyer la référence si ça vous intéresse, c'est Tim Baines qui a retracé l'histoire de trois personnes qui sont devenues handicapées à la suite d'un accident, puis qui ont été capables de remettre leur vie en ordre, leur vie sociale sur pied, un peu grâce à ce sport. Il y a une histoire en particulier que j'ai trouvé intéressante, celle d'un ancien militaire qui, on le sait, là, il y a beaucoup de militaires qui, lorsqu'ils reviennent du combat, vont souffrir de PTSD, là, de troubles post-traumatiques.
Quoi, c'est ça?
Ouais, et donc cet homme en particulier a trouvé sur les verres de golf un genre d'havre de paix, parce que bon, déjà, il n'y a pas vraiment d'environnement plus apaisant que des longues marches qu'on peut faire d'un trou à l'autre, en gardant la forme, en pouvant garder un contact social avec des gens, dans un environnement qui, on va se le dire, là, c'est pas très stressant, un verre de golf.
Oui, puis en lisant l'article, tu as découvert de l'équipement que toi-même, tu pourrais peut-être utiliser si jamais ça t'intéresse.
Ben oui, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. On parlait tantôt des voiturettes, mais la technologie a continué d'avancer. Puis il y a de plus en plus d'outils qui sont mis à la disposition des golfeurs qui voudraient s'y mettre. Parce que tu sais, on peut s'imaginer quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple, qui veut s'élancer. Un coup de départ, quand tu es bon, beaucoup plus bas, le dos courbé, évidemment, en position assise, c'est plus difficile d'avoir une bonne drive, comme on dit, un bon coup de départ. Mais il y a un équipement qui s'appelle le Paragolfer. C'est un genre de véhicule tout-terrain. Ça ressemble un peu à un Transformer, pour être honnête. Là.
Peut-être que mon garçon aimerait ça, d'ailleurs, des Transformers. Ouais. C'est très de son âge, là, à 5 ans. Là.
Mais lui, ce ne serait pas pour jouer au golf, ce serait juste pour se déplacer avec.
C'est ça, oui, tout à fait.
Ben, pour vous donner une idée, c'est un peu comme un genre d'exosquelette, c'est le Transformer, hybride avec un fauteuil roulant, qui va donc te permettre, quand tu veux être assis et donc te déplacer d'un trou à l'autre, tu peux le faire. Mais une fois que tu veux t'élancer, on peut actionner un bouton qui va te permettre de prendre une position debout pour t'élancer avec un parfait équilibre.
Puis il y a d'ailleurs une fondation qui existe là, qui pour ramasser des fonds pour acheter cet équipement-là. Mm-hmm. Hein.
Oui, parce que on peut le deviner, là, ça coûte cher. On parlait des Fair Callaway 8 qui coûtaient cher en début de chronique tantôt. Ben, évidemment que ces équipements-là coûtent aussi très cher. Donc, pour pouvoir se les procurer, il y a une athlète, Tanel Bolt, qui a été interviewée dans l'article, qui, elle, profite de cet outil-là et a décidé de fonder son organisme RAD Society, donc R-A-D Society, pour amasser des fonds. Pour permettre d'acheter cet équipement-là et le distribuer à des personnes handicapées qui voudraient s'épanouir à travers le golf. Donc, radsociety.ca, si jamais ça vous intéresse, Dominique.
Oui, bien, je pense qu'on va le mettre sur le lien Twitter et puis sur aussi l'article que tu nous as parlé tout à l'heure là, du Ottawa Sun. On va le mettre sur Twitter et sur ma page Facebook quand je vais lancer de l'émission. Donc, Kevin, je te remercie énormément. Je te souhaite un bon mois de décembre et peut-être qu'on va avoir la chance de se reparler en 2021. Merci.
À bientôt tout le monde. Bye-bye.
La télé est cassée, ça ne m'a pas dérangé. La télé est cassée, je me suis bien amusé. La télé est cassée, ça ne m'a pas dérangé. La télé est cassée, je me suis bien amusé.
Cet été, lors de la reprise des activités des différents sports professionnels, on nous avait promis des innovations technologiques et du spectacle électrisant et de l'action sans arrêt à la télévision. On en avait d'ailleurs parlé avec mon bon ami Mathieu Paiement, producteur visuel et grand consommateur de sport à la télévision. Bonjour Mathieu.
Salut Dominique.
Alors, mais depuis là, 4 mois plus tard, les résultats sont pas très encourageants. Il semble que les téléspectateurs n'ont pas été au rendez-vous. Ça a pas les bulletins, les remises de bulletins n'ont pas été très très roses aux États-Unis.
En fait, sont catastrophiques. Des pertes de cotes d'écoute comme celles qu'on a vues dans les différents sports professionnels. Je vais te dire bien franchement, pour connaître bien le milieu de la télévision, c'est suffisant pour tirer la plug d'habitude. C'est-à-dire que si une série télé perd autant de téléspectateurs, généralement, la série télé ne revient pas. Heureusement, le sport professionnel va revenir, mais partout en Amérique, les chiffres sont très, très, très décevants, même inquiétants. Et c'est des pertes de revenus aussi, hein, parce que moins il y a des gens qui écoutent la télé, moins il y a de publicitaires qui veulent annoncer, moins les publicités valent de l'argent. Et donc, il y a des pertes de sous pour les diffuseurs qui payent à grand prix les licences de diffusion des sports professionnels. Donc, c'est très, très dommageable pour les diffuseurs en ce moment.
Toi, tu es un producteur de documentaires, donc ça t'a pas touché présent. Mais si, par exemple, toi, tu avais été producteur d'une émission de sport puis tu avais vu ces codes d'écoute, comment toi, tu aurais réagi?
Ben, j'étais obligé de rationaliser en quelque sorte parce que, bon, d'une part, le sport n'est pas moins bon. Tu sais, la seule chose qui m'est passée par la tête par rapport au spectacle, c'est qu'en temps de pandémie, probablement que la chose que les gens ont le plus envie de faire, c'est de penser à d'autres choses que la pandémie. Puis si tu écoutes un show de, je sais pas moi, un match de football ou de hockey, tu réalises vite que les estrades sont vides, puis ça te ramène en pleine face que on est en plein milieu d'une pandémie puis qu'on n'a pas le droit d'assister aux matchs dans les stades comme à l'habitude. Mais donc, si tu es un producteur, tu trouves toutes sortes de raisons pour expliquer cette chute de téléspectateurs. Et puis, tu essaies probablement de trouver des solutions, mais pour vrai, dans ce contexte-là, tu dis, tu sais, nous, en documentaire, des fois, on disait, hey, y a pas grand monde qui a écouté notre film hier. Oui, mais il y avait une game de hockey en même temps.
Ouais.
C'est le genre d'excuses qu'on se trouve. Là, j'imagine qu'ils ont cherché des excuses.
Puis qu'est-ce que tu penses que les excuses ont été pour ces producteurs-là, les télédiffuseurs?
Comme je dis, celle la plus far-fetched, celle que je peux aller chercher le plus loin, c'est que même dans le spectacle sportif, tu avais un friendly reminder, un rappel qu'il y avait une pandémie, mais il y a aussi, la pandémie elle-même a attiré les gens vers d'autres émissions. Tu sais, moi, je peux te dire quelque chose. Le show que j'ai regardé comme si c'était un sport avec des scores tout l'été, c'était les émissions spéciales sur la pandémie pour savoir combien il y avait de nouveaux cas, puis dans quelle ville, puis tout ça. Fait que j'avais l'impression d'écouter le Super Bowl pendant 6 mois, puis d'essayer de voir si on allait s'en sortir ou pas. Fait que j'ai l'impression que les gens se sont détournés vers d'autres types de contenus, des contenus dans lesquels ils ont pu s'évader un peu du contexte de pandémie, tu sais, des séries de fiction ou les nouvelles, et encore plus dans le contexte où les élections américaines ont retenu énormément l'attention avec notre cher ami Donald Trump.
Oui.
Ça aussi, on l'a écouté comme un sport. Tu sais. Moi, j'ai écouté la semaine électorale au complet, sur CNN, exactement comme j'aurais écouté les playoffs de hockey d'habitude. Fait que je pense que la plus grande excuse, c'est que la pandémie et les élections américaines ont pris plus de place dans l'inconscient des gens et aussi la volonté de s'évader en regardant autre chose qu'un show de sport dans lequel les estrades sont vides puis qui te rappelle, qui te ramène en pleine face que tout le monde est malade.
Puis qu'on a eu du baseball au mois de novembre ou au mois d'octobre, puis le Masters au mois de novembre. Est-ce que ça, tu penses que ça a joué quelque chose là-dedans?
C'est drôle, puis je me faisais la réflexion qu'en ce moment, on devrait pouvoir écouter du hockey. Y a peut-être pas tant le calendrier, mais en tout cas, les formules, comme la formule des playoffs au hockey, m'a paru peut-être un peu dérangeant. Sais-tu qu'est-ce que ça m'a donné comme impression? Ça m'a donné comme impression qu'on faisait un tournoi le plus proche possible de la, de la réalité ou de ce à quoi on est habitué. Mais en fait, c'était comme un tournoi consolation, tu sais. Fait que pour vrai, le feeling que j'ai eu, c'était comme des fausses playoffs, des playoffs de remplacement ou des playoffs des pauvres, dans le sens où c'était pas exactement la formule à laquelle on est habitué. C'était pas exactement le même spectacle. Fait que peut-être que plus que le calendrier, la façon dont les règles ont été repensées pour que ça se puisse, peut-être que ça a donné un feeling que c'était pas exactement la vraie affaire. C'était pas les vrais playoffs. Là,
est-ce que, puis au Canada, on n'a pas vraiment eu les de code d'écoute au Canada, mais c'est pas plus joyeux au Québec?
C'est pas plus joyeux au Québec. Ben, en tout cas, là, je ne sais pas s'il faut regarder, comme tu dis, les codes d'écoute. Autant que, puis globalement, elles sont aussi désastreuses. Mais si tu regardes les symptômes de ce qui vient de se passer, je pense que la restructuration de TVA Sport est un symptôme évident de ce que la pandémie a fait mal.
C'est sûr parce que juste pour mettre en contexte, il y a plusieurs journalistes ou d'individus qui travaillaient à TVA Sport qui ont perdu leur emploi.
Oui, TVA Sport a décidé de ne plus faire d'émissions originales comme les nouvelles ou des shows du matin dans lesquels ils parlaient de sport en studio. Et je pense qu'ils ont mis à la porte, je pense que c'était 17 le chiffre, mais en tout cas, plusieurs journalistes et techniciens de TVA Sport ont été remerciés. Et c'est une restructuration donc de TVA Sport qui va se concentrer sur le contenu web. En attendant le retour des sports professionnels. Puis ça, c'est sûr que TVA Sport n'allait pas bien avec le non-retour des Nordiques. Ils battaient de l'aile déjà, mais là, ce qu'on sent, c'est que la pandémie a un petit peu achevé un soldat qui était magané par le passé, mais qui, là, n'est pas capable de se relever. Fait que ça, pour moi, c'est un symptôme évident de ce que la crise de la pandémie provoque dans les médias, notamment du côté du sport.
Et est-ce que tu penses que tu es capable de relever peut-être un point positif dans tout ça?
Moi, je vais te dire, le point positif, c'est quand ça va recommencer à normal, là, on va avoir du fun en maudit à renouer avec nos habitudes d'écoute avec le sport professionnel. Je pense qu'aussi, ça va indiquer qu'enfin, Tu sais, le sport professionnel, c'est ce que tu fais quand il n'y a rien d'autre qui te préoccupe. Tu as tondu le gazon, tu t'es occupé des enfants, c'est dimanche après-midi, tu t'assois, tu écoutes le baseball, tu écoutes le football. J'ai hâte qu'on n'ait plus d'autres préoccupations qui feront qu'on va pouvoir s'asseoir puis regarder du sport puis pas avoir la tête ailleurs, en fait. Je pense que quand ça va reprendre, on va être bien heureux de ça.
Merci beaucoup, Mathieu. Puis quand ça va recommencer, on va aller voir un match à l'Impact ensemble. Yeah. D'ici ce temps-là, on s'en va au spectacle de la mi-temps.
All right. Merci beaucoup, Dominique.
Ladies and gentlemen, welcome to the halftime show.
Put your paws out. You can go on a swing. Sitting. She said
Alors, bienvenue à la deuxième partie de l'émission On parle de sport. Mon nom est Dominique Tremblay. Vous venez d'entendre la chanson Born This Way de Lady Gaga, enregistrée en Australie. En 2017, Lady Gaga a fait le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 51 à Houston. Les activités sportives des organismes de sport du Québec est toujours paralysées suite à cause de la pandémie. Tout le monde essaie de trouver des solutions pour garder les jeunes athlètes actifs. Les gens des Olympiques spéciaux Québec doivent vivre la même situation avec leurs athlètes ayant une déficience intellectuelle. J'en parle avec James Lapierre, directeur des programmes sportifs et du développement communautaire. Bonjour, M. Lapierre, ça va bien?
Oui, bonjour, merci beaucoup.
Donc, comment ça va chez Olympiques spéciaux par les temps qui courent?
Bien, par les temps qui courent, ça va en fait assez bien en termes des activités virtuelles qui sont là pour nos athlètes. Ça n'a pas commencé comme ça. On s'entend qu'à la mi-mars, quand on a eu le début de la pandémie, il a fallu qu'on se revire sur un système, façon de parler, pour commencer à faire des activités. Et éventuellement, on a commencé à offrir des activités en ligne virtuelles pour tous nos athlètes.
Quand on parle d'activités en ligne, on parle de quoi?
Ben, c'est-à-dire que nous, dès le début de la pandémie, là, on a fait une rencontre le lendemain, là, je crois que c'était le 12-13 mars. On a fait une rencontre pour déterminer, OK, comment est-ce qu'on va réorienter nos activités au sein de cette nouvelle réalité-là. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, on va avoir des activités en ligne. À tous les jours, on offrait des cours de yoga, des activités d'entraînement, aérobique, etc. Donc, chaque jour, et même à certains moments de l'année, on faisait des activités sociales pour nos athlètes. Ça, c'était durant les mois de mars, avril, mai et même jusqu'à juin. Au cours de l'été, on a commencé à pouvoir faire ce qu'on appelle le retour au jeu, c'est-à-dire les activités en présence d'entraîneurs. Donc, pour certaines régions, on a activé notre plan, comme d'ailleurs beaucoup de fédérations sportives québécoises. Mais malheureusement, depuis le mois d'octobre, alors que les régions ont commencé à virer aux zones rouges dans beaucoup de cas, il a fallu qu'on réoriente nos activités. Donc, le plan de retour au jeu en présence avec les entraîneurs est toujours là. On se prépare pour quand on va avoir moins de cas de COVID dans les régions pour pouvoir le repartir. Mais pendant ce temps-là, on a toujours nos activités virtuelles, que ce soit un cours de yoga ou des activités de danse ou de d'entraînement, ou même un cours de cuisine pour nos athlètes qui a lieu le jeudi soir.
Comment va la participation en ligne avec l'Internet puis les Zooms et ainsi de suite? Est-ce que ça va quand même assez bien, la participation? Vous êtes content?
Je dirais que dès le printemps, dès le début de la pandémie, au printemps, on a eu quand même une bonne réponse de la part des athlètes. Maintenant, avec les activités qu'on offre, on demande à ce que les athlètes s'inscrivent. Donc, c'est comme ils s'inscrivent pour un cours, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc, à cause de ça, on a moins de gens qui sont présentement actifs dans ces cours-là, mais quand même, on a une belle réponse de la part de nos athlètes. Mais là, présentement, on prépare un plan pour activer l'entraînement et des compétitions virtuelles qui vont pouvoir s'activer là, dès le début de 2021 pour nos participants. Puis on s'attend à ce qu'on ait une très grande participation à ce moment-là. Il faut considérer aussi que nous, on a beaucoup encouragé les athlètes à s'entraîner eux-mêmes avec toutes les techniques qu'on leur a montrées. Là. Donc, on a beaucoup d'athlètes qui sont toujours actifs par eux-mêmes.
Les compétitions virtuelles, ça pourrait ressembler à quoi rapidement, là, sans trop s'étendre?
Nous, on a l'habitude de réunir le Québec au complet pour, mettons, une compétition d'athlétisme ou une compétition de natation. On essaye de réunir là, tout le monde pour qu'ils puissent se côtoyer. Il y a certaines compétitions ou certains sports qui ont tellement de participation qu'il faut qu'on divise ça en qualifications ou championnats régionaux. Comme par exemple les quilles. On a beaucoup de quilleurs chez nous. Mais l'idée, là, pour répondre à votre question précisément, l'idée ici, ce serait d'organiser des compétitions par bulle régionale quand on va avoir l'autorisation de pouvoir réunir les gens, là, quand on sera sorti des zones rouges pour ces régions-là. Et les gens vont pouvoir, au lieu d'avoir, mettons, 100 personnes à une compétition d'athlétisme provincial, ben, si on a 5 compétitions de 20 athlètes dans différentes régions, ça aussi, ça peut marcher. On va récolter les résultats et ensuite, après ça, on va déterminer des championnats au niveau québécois en identifiant qui parmi ces 5 compétitions-là étaient les plus forts. Donc, grosso modo, ça ressemblerait à ça.
Monsieur Lapierre, j'ai vu sur votre page Facebook le lancement d'un documentaire champion en une minute à peu près. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Certainement. Alors, c'était l'initiative du réalisateur Elie Pixelin, qui est devenu grand ami des Olympiques spéciaux. Elie a un frère, Stéphane, qui est athlète des Olympiques spéciaux pour la Nouvelle-Écosse. Et Elie a voulu le suivre son parcours, en fait, de préparation jusqu'aux Jeux nationaux d'Olympiques spéciaux Canada en 2018. Et par la suite, il a suivi Équipe Canada aux Jeux mondiaux à Abu Dhabi et Dubaï en 2019. Donc, sans vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ce film-là et vendre de punch, façon de parler. C'est vraiment un film magnifique qui va vous présenter deux athlètes, donc Stéphane Pixin, le frère de réalisateur, ainsi qu'Audrey Vincent, une athlète en athlétisme québécoise, et leur parcours là, de préparation envers pour les Jeux de 2018 et préparation aussi là, pour les Jeux mondiaux et l'expérience qu'ils ont vécu là-bas.
Et à quel endroit on peut voir le film?
Présentement, il est en ligne. Je crois que si vous allez sur notre Facebook d'Olympiques Spéciaux Québec, on a mis le lien pour que vous puissiez aller chercher le lien et le voir. J'ai eu la chance de le visionner. C'est vraiment là, une œuvre magnifique de la part du réalisateur là, qui montre au niveau visuel, mais au niveau du dialogue aussi. Là, c'est vraiment un voyage incroyable là, avec ces athlètes-là qui se préparent pour aller à cet événement des Olympiques spéciaux.
Monsieur Lapierre, je vous remercie beaucoup et bonne chance. On va se reparler en 2021. Au revoir.
Ben, ça me fait plaisir. Au plaisir.
Alors, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. C'est un triathlon Ironman, le Mont Everest des triathlons. Chris Kirich de la Floride a complété son premier Ironman la semaine dernière et il est par le fait même devenu le premier athlète avec la trisomie 21 qui l'a complété l'épreuve. Son exploit a fait le tour du monde. J'ai invité Jean-François Martin pour en discuter avec lui. Il a aussi, lui aussi un fils avec la trisomie 21 et est professeur en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Il a de plus organisé plein de périples de longue haleine avec des personnes handicapées. Bonjour, M. Martin, ça va bien?
Très, très bien, mon cher monsieur.
Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que Chris avait réussi un Ironman?
Extraordinaire. Extraordinaire. Quand j'ai vu ça, je suis moi-même coureur et puis j'ai jamais réussi un marathon de ma vie. Alors, je peux imaginer que ça prend de l'endurance, ça prend aussi une force de caractère, une force psychologique pour dépasser. Écoute, trois fois, là, trois différents programmes qu'il avait devant lui. Et c'est extraordinaire. Puis en même temps, moi, ce que je trouve fantastique dans son exploit, c'est que ça démontre tout ce qu'on a pu faire éclater comme plafond de verre depuis plusieurs années, et on ne parle pas juste de la trisomie 21, mais de tout type de déficience. C'est ça que moi qui m'impressionne de dire « Wow, un autre plafond de verre qui vient de sauter, ça va être quel le prochain? » C'est impressionnant.
Le père de Chris a été très impliqué dans les exploits de son fils. Ouais. Vous avez un enfant qui a la trisomie 21. Est-ce que ça, ça vous parle encore plus?
Ben oui, parce que c'est sûr que comme parents, hein, on est happé par la présence donc de la trisomie 21 chez notre enfant déjà en bas âge. Et puis, on voit l'importance de l'implication des parents. Écoute, moi, avec Carl, on a fait plein de trucs ensemble. J'y ai créé une ligue de soccer intégrée dans laquelle j'avais des joueurs qui avaient une trisomie 21 et des joueurs neurotypiques. Et les deux jouent ensemble dans une ligue. On a commencé avec deux équipes, on a fini avec six équipes. C'est de l'implication, mais c'est tellement beau après ça à voir. Puis en même temps, moi, je me disais, ben, je fais ça, oui, pour Carl, mais je fais ça aussi pour ouvrir une société qui va être un petit peu plus ouverte à la différence et puis de permettre de dire que, ben, écoute, ces gens-là, si tu leur donnes un soutien, là, puis si tu les aides, ils peuvent réussir bien des choses. Ce qu'on pensait impossible auparavant, tu sais, si on était en 1950 et tu m'aurais dit que quelqu'un aurait terminé un marathon qui a une trisomie 21, on aurait ri de toi, là. On aurait dit, voyons, là, viens, on va te les amener les voir en institution, puis ils viennent pas me faire croire qu'ils vont être capables de courir. Alors, c'est en leur permettant d'être là, mais en leur permettant aussi d'être dans leur famille, d'être entouré. C'est ça qui fait en sorte qu'on se dépasse encore plus. Fait que oui, de savoir que le père était autour, moi, je trouve ça fantastique. Puis j'imagine que pour lui aussi, ça doit être une réussite extraordinaire de voir son fils parvenir au fil d'arrivée, là.
Puis on parle plus de, en plus encore que l'espoir sportif, parce que sur le site Internet de Chris Kikic, on parle du défi 1% en 30 jours pour aider à faire connaître la trisomie 21. Ouais. Donc ça, c'est un aspect, vous en avez parlé d'ailleurs un peu plus tôt, mais c'est un aspect important de la réussite de l'athlète.
Ouais. Ben oui, absolument, parce qu'il devient un petit peu un ambassadeur de regarder ce que les gens sont capables de faire. Bon, on s'entend, là, c'est pas toutes les personnes qui ont une trisomie 21 qui vont être capables de terminer un marathon, mais dans la population des neurotypiques aussi, là, c'est pas tout le monde, je l'ai dit tantôt, j'ai jamais réussi, moi, à faire un marathon, et pourtant, je suis un coureur depuis au-dessus de 40 ans. Alors, c'est pas donné à tous, mais il y en a qui y parviennent. C'est ça que Chris est en train de démontrer, c'est de dire, regardez, là, moi, j'ai réussi à le faire, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi, puis il y a des gens aussi qui lui ont permis de se développer là-dedans. Si on s'était limité, puis c'est ça que moi je dis, c'est toujours le problème, c'est que les obstacles puis les contraintes sont imposées par les gens autour qui vont lui dire, ben non, voyons, t'as une trisomie 21, tu seras pas capable de faire ça, là. Ben voyons, t'as une trisomie 21, ben non, tu seras pas capable de faire ça. Donc, en ayant des commentaires de ce type-là, ben c'est sûr que la personne va pas un peu plus loin, hein, comme nous autres aussi, mais il y a eu un entourage qui a dit, ben écoute, pourquoi pas, t'aimes ça courir, tu penses être capable, ben écoute, on va te soutenir. Fait que c'est un peu le message, en tout cas, je pense, qu'il tente de passer, de dire, ben écoute, oui, moi j'ai été capable, d'autres vont être capables aussi, puis s'il y en a qui ont des rêves, ben pourquoi tu pourrais pas courir eux autres aussi? Moi j'en connais, là, qui ont une trisomie 21 qui courent. Bon, ils courent pas encore une fois des marathons, là, on est bien d'accord, mais ils courent quand même, là. Et puis une fois, je me souviens, j'ai participé à une course avec le regroupement pour la trisomie 21, puis j'en ai vu un qui a couru 5 km, puis il a vraiment bien couru, là. Puis je me disais, waouh, attends une minute, toi, là, c'est extraordinaire. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça qui nous permettent justement d'avancer puis d'aller plus loin quand on les regarde et pas juste voir la trisomie 21, là.
Et vous avez organisé d'autres, des périples qui demandaient beaucoup d'entraînement. Un Ironman, c'est une compétition qui peut durer 17-18 heures. Donc, ça demande la préparation. Vous êtes capable de vous dire, ah, ben lui a passé par telle et telle chose pour l'accomplir.
Ah oui, ben oui, écoute, c'est une grande préparation, même une préparation pas juste physique, mais mentale aussi. Hein. Souvent, c'est ça qui fait que les gens cassent à un certain moment donné. C'est que oui, des fois, le physique ne suit pas, mais c'est le mental aussi de dire, écoute, il me reste encore 20 km à courir, je me suis déjà tapé tout le reste. Faut être fait solide. Alors, ben oui, j'ai eu l'occasion d'avoir différents projets qui poussaient, puis encore une fois, c'est ça, c'est qui poussaient les gens à se dépasser puis à aller plus loin. Tu sais, quand j'ai amené 6 adultes qui ont une trisomie 21 vers le Machu Picchu, on a fait un trek sur 3 jours, 2 jours complets vers le Machu Picchu, puis un petit trek auparavant. Mais écoute, là, le trek vers le Machu Picchu, ils ont marché 13 heures consécutives en 2 jours, là. 13 heures pour ceux qui ont déjà fait des treks, puis on parle pas d'un terrain plat, là, un terrain qui est nivelé.
Ça en demande pas mal.
Hey, ça en demande en tabarnouche, là. Mais c'est de voir leur difficulté, tout à fait, parce que comme tout le monde, il y avait leurs difficultés. Mais c'était surtout de voir que, OK, on doit y arriver, là. On a quelque chose à accomplir. Et c'est ça qui était beau à voir, de dire, ben oui, effectivement, on doit se rendre jusqu'au bout. Et ils étaient conscients de ça. Et puis, ils avançaient, puis ils continuaient. Puis, ben, ça prenait de la motivation. Hein. Il y en a une fois qui était complètement essoufflé. J'ai dit, ah ouais, lâche pas, on va y arriver. Puis, il me dit, quand on va arriver en haut, il va-tu avoir de la bière? Oui, oui, il va en avoir. J'ai dit, on se débrouillera un coup, on va être rendu là-bas. Ça m'a motivé.
Donc, M. Martin, vous avez réussi cet exploit-là. Vous avez peut-être utilisé l'exploit de M. Kikic pour trouver d'autres activités que vous allez pouvoir faire avec des personnes handicapées. Je vous remercie de votre temps et on se reparle prochainement.
Merci beaucoup.
Alors, pour le dernier segment de l'émission, je suis en compagnie de mon chroniqueur Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va très bien, je suis en pleine forme. Et toi?
Très bien, merci, ça va super bien. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de Joey Moss.
Oui.
Pourtant, peu de gens en dehors de l'Alberta le connaissaient. Peux-tu me donner un petit peu plus de détails?
Oui, ben avant de donner quelques détails, est-ce que tu peux me nommer 3 personnes importantes, 3 personnes sportives importantes en Alberta?
Wayne Gretzky.
Oui.
Warren Moon.
Ah, mon Dieu, Warren Moon, oui.
Ah, il faisait... je l'adorais quand j'étais jeune avec les Eskimos d'Edmonton. Et oui. Mark Messier, mettons.
Mark Messier. On pourrait ajouter aujourd'hui Connor McDavid. Okay. En fait, dans l'article que j'ai utilisé d'abord pour faire ma recherche sur Joey Moss, on dit que la Sainte Trinité du sport à Edmonton est composée de trois personnes, Wayne Gretzky, Connor McDavid et Joey Moss.
OK, intéressant.
Au hockey, il y a deux émotions. Il y a la victoire ou l'enfer. C'est très bipolaire. Avec Joey Moss, une victoire ou une défaite, ça ne changeait rien. Il était toujours de bonne humeur dans un sport où il y a tellement de pression. Ça avait un effet sur tout le monde. Celui qui nous dit ça, c'est David Pelletier. David Pelletier, c'est l'ancien patineur artistique qui est devenu entraîneur de patinage chez les Oilers d'Edmonton. Okay. Puis Joey, c'est Joey Moss qui est préposé à l'équipement des Oilers depuis 1994. Il est décédé tout récemment, le 26 octobre 2020.
OK. Et donc, tu as parlé de Wayne Gretzky. C'est qui son lien avec... C'était quoi son lien, pardon, avec Wayne Gretzky?
C'est une histoire assez incroyable. Il y a une tante de Wayne Gretzky qui vivait, qui était née avec la trisomie 21. Donc, Wayne Gretzky était très sensibilisé à cette situation-là. Pour lui, c'était pas quelque chose qui l'intimidait, si on veut. Alors, quand il est arrivé à Edmonton, pour jouer à Edmonton, il a sorti avec une jeune fille dont le nom c'était le nom de famille, c'était Moss. Alors, c'était la sœur de Joey Moss. Joey Moss, à cette époque-là, travaillait dans une usine de verre et Wayne Gretzky trouvait que c'était un peu incroyable que quelqu'un qui vit avec la trisomie 21 aille aller travailler dans un endroit comme ça, qui n'était pas des conditions de travail très fantastiques. Et il est allé voir son entraîneur, puis il a dit, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Et c'est comme ça que Joey Moss est entré dans le vestiaire des Oilers Edmonton.
Là, on parle du début des années 80, si je me...
On parle de 1984. Il a travaillé avec les Oilers d'Edmonton et avec les Eskimos d'Edmonton. Pas longtemps après, il a commencé aussi le même genre de travail en 85 comme assistant au responsable du vestiaire. Okay. Et il a travaillé là 35 ans.
Donc, il y a aussi, donc, on vient de parler des Eskimos d'Edmonton. Danny McChosha, qui est le directeur gérant ou le président des Alouettes maintenant, a travaillé là. Et Joey Moss avait une chanson qui était importante pour lui. Et que oui. Danny a utilisé souvent. Comment il s'en servait-il?
Exactement. Sa chanson, c'est drôle à dire, mais c'est l'hymne national canadien. Et s'il y a des gens qui ont vu des matchs des Oilers Edmonton lors de l'hymne national au début du match, si la caméra était sur Joey Moss, Joey Moss, il chantait avec énormément d'énergie, énormément d'ardeur. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous pouvez aller voir une interprétation de l'hymne national par Joey Moss. Mettons que c'est pas un grand chanteur, mais au niveau de l'énergie...
Idol, American Idol, des choses comme ça, là?
Probablement pas, mais il était capable de générer de l'énergie dans une équipe de hockey ou de football. Alors, quand il est arrivé à Edmonton, Danny Machocha, à chaque année, au camp d'entraînement, il demandait à Joey Moss de chanter le Haut Canada pour montrer aux Américains qui arrivaient qu'est-ce que c'était l'hymne national canadien. C'était tout un show et tout le monde se levait à ce moment-là.
Comment vous parlez-vous de l'effet bénéfique de son travail avec les Oilers et les Eskimos sur son handicap à lui?
Oui, pour son handicap à lui, ben d'abord, il se levait de bonne heure. Quand je pense aux Oilers, par exemple, il arrivait tôt à l'aréna, il déjeunait avec les joueurs. Les soirs de match, il restait jusque vers 23h ou minuit. C'était sa vie. Il faisait partie des meubles dans le vestiaire. Il était toujours là, du matin au soir, avec le gérant de l'équipement. Le travail, c'est très valorisant pour les gens qui vivent avec la trisomie 21. C'est généralement un bonheur de travailler avec eux autres. Ils sont à l'heure, ils sont souriants, ils sont travaillants. et leur travail, c'est souvent toute leur vie. Mais ça demande à l'employeur une adaptabilité. Il faut que l'employeur soit compréhensif, qu'il respecte leur rythme, qu'il faut parfois répéter, mais ils sont capables de faire des choses et d'apprendre. Plus de 45 000 Canadiens sont atteints de trisomie selon l'Association canadienne du syndrome de Down. En 2007, les Centers for Disease Control and Prevention, une instance américaine, estimait à 47 ans l'espérance de vie des gens qui en sont atteints. Or, Joe Amos est mort à 57 ans. Et aux yeux de plusieurs, son emploi a joué pour beaucoup dans sa longévité. Et son renom a rejailli sur l'ensemble des gens qui vivent avec ce handicap-là dans la région d'Edmonton. Ils ont vu que la vie pouvait avoir un sens, pouvait être intéressante et que ça amenait à faire de grandes réalisations, dont, par exemple, participer au gain de 5 Coupes Stanley, comme c'est arrivé avec les Oilers d'Edmonton.
Merci, Yvan, beaucoup. C'était très intéressant, en espérant que les Oilers pourront lui rendre hommage quand ils recommenceront à jouer à Edmonton. Merci beaucoup. C'est tout pour l'émission aujourd'hui. On se revoit dans deux semaines.